Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous êtes content d'être rentré de vacances pour certains, mais je suis content de vous voir. Je ne sais pas si ce sera un bon message, mais j'espère que c'est un message de la part du Seigneur. Après deux messages sur le Notre Père par Nordine et moi-même, et aussi à partir de la première lettre de Jean concernant l'assurance, et notamment l'assurance dans la prière, j'ai eu à cœur ce matin de poursuivre un peu ces réflexions sur ce sujet bien vaste, mais surtout majeur, essence de nos vies chrétiennes, essentielle de notre relation, de notre communion, notre communication, notre connexion avec Dieu, qu'est la prière. Et pour cela, je propose une lecture aussi d'un psaume. Lointain passé, le psaume. Peut-être pas si lointain que ça, finalement. Encore très actuel et pertinent pour nous. Je pense que vous le savez bien. C'est le psaume 143 que je vous invite à lire. Psaume 143, un psaume de David. Ô Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts des temps passés. J'ai l'esprit abattu. Je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens, je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi. Je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer. Je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance. Car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, car je me réfugie auprès de toi. Assigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Puisque tu es ce que tu es, ô Éternel, garde ma vie. Toi qui es juste, délivre-moi de mes angoisses. Dans ton amour, tu chasseras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, puisque je suis ton serviteur. C'est une prière. Ainsi est qualifié ce psaume dès le premier verset. Une belle prière. Belle prière, mais qu'on aurait plutôt tendance à arrêter au verset 11. Verset 12 est peut-être un peu dérangeant quand même. C'est pas très chrétien quand même pour nous de reprendre ce genre de paroles. Faire périr tous mes ennemis. En tout cas, il est dans la Bible. Et sauf erreur de ma part, il ne me semble pas être là comme un contre-exemple de ce qu'il ne faudrait surtout pas dire. Encore moins penser et surtout pas prier. Vous en faites quoi, vous, de ce genre de versets ? Versets d'imprécation, comme on les appelle. Et là, c'est rien encore, hein, juste un verset. Mais il y a carrément des psaumes entiers d'imprécation. Comme le psaume 109, aussi titré de David. Cet homme pourtant selon le corps de Dieu. Ouais, bon, David était aussi humain, quoi. On le sait bien, infaillible. C'est pour ça que Dieu lui tolère ce genre d'écart. C'est ça, vous croyez ? Jésus a effectivement bien dit « Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » C'est en Matthieu 5, verset 44. Mais si on veut être juste, on n'oubliera pas que le début de la phrase nous indique comment prier pour eux. En disant surtout « Je vous dis... » Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas, paraphrasera l'apôtre Paul. Appel à des prières bien différentes de notre verset d'imprécation, vous ne trouvez pas ? Contradiction complète ? Non ? Car grand principe de la Bible, grand principe de base, la Bible ne se contredit jamais. Mais comment on trouve une cohérence en tout cela alors ? Comment des versets semblables, comme des psaumes où le malheur des méchants est visiblement plus que souhaité, ont-ils pu être accueillis, conservés par Israël, puis par l'Église comme étant sacrés ? Dieu les agrée-t-il ? Certains disent que c'est simplement parce que l'ancienne alliance donnée via Moïse était inférieure à la nouvelle alliance donnée par Jésus-Christ. Mais comme dit un commentaire, si on entend par là que la haine et la vengeance sont normales aux hommes de l'ancienne alliance, ce n'est pas d'infériorité qu'il faudrait parler, mais d'opposition absolue entre les deux alliances. Et pourtant non, nous savons que ni Jésus ni ses disciples n'ont admis cette opposition. Il n'y a pas une telle opposition. Et en tout cas, Dieu n'a pas changé. Et la base des alliances que lui-même a offertes ne peut être contradictoire. D'ailleurs, quand Jésus a mis en avant le commandement que nous venons de rappeler, il n'a de fait rien inventé ou innové. Ce n'était que le rappel de l'intention première et de l'esprit même du commandement prescrit à Moïse, et bel et bien inclus dans la loi d'aimer son prochain, dès le livre du Lévitique. Et d'aimer tous ses prochains comme soi-même. Peut-on dire que s'il y a eu divergence au fil du temps, ça ne vient ni de la loi de Dieu, qui est bonne, ni de Dieu lui-même, mais que c'est juste une déformation des hommes ? Il y a peut-être un peu de ça. Mais on peut quand même noter aussi que l'apôtre Pierre cite un verset d'un psaume d'imprécation comme étant bel et bien un oracle divin. Il cite le psaume 108 en acte 1. Et sur cette base, nous pouvons dire, il me semble, dire sans honte, même si c'est encore avec un peu de perplexité, que notre verset un peu gênant est bel et bien agréé et même inspiré par Dieu. Cependant, pour ne pas être contraire à la nature de Dieu, on peut aussi assurément dire que les imprécations des psaumes ne légitiment pas la haine ou la vengeance telle qu'un être humain faillible et pécheur peut les comprendre, ou les vouloir, ou les vivre, dans ce qu'elles ont d'égoïste et de coupable, pour rendre le mal par le mal. Mais on peut certainement dire que ce verset condamne avec une extrême énergie. Ce qu'il condamne, c'est justement le mal comme mal, le méchant comme méchant. Ce verset condamne le mal comme mal et le méchant comme méchant. Et là, il faut bien le reconnaître, il y a un principe intangible, permanent. Dieu était et sera éternellement un Dieu saint et juste, terrible dans ses jugements à l'égard de ceux qui commettent le mal et ne s'en repentent pas. Et le Nouveau Testament prononce aussi à ce sujet, comme l'Ancien d'ailleurs, des sentences terribles. L'Évangile non plus n'est pas bisounours en la matière, ce serait mensonge que de le croire. Une question se pose néanmoins. Si la justice de Dieu exige effectivement le châtiment du coupable, l'homme, le chrétien, pour ce qui nous concerne, est-il autorisé à appeler, comme le fait le psalmiste, ce châtiment sur ses semblables ? Certains voient là encore une différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, du fait de la grâce divine en Jésus-Christ désormais. Pourtant, on a aussi dans le Nouveau Testament, par exemple en Apocalypse, une prière d'appel à la rétribution divine, à la vengeance divine, c'est le mot du texte. Mais vengeance dans le sens, et cela c'est le dictionnaire qui précise ce sens de ce mot, vengeance dans le sens de réparer une offense en punissant l'offenseur. C'est une vision de l'apôtre Jean et l'audition de prière faite à Dieu, donc une réalité spirituelle effective. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils crièrent. Jusque à quand, maître saint et vrai, tardes-tu à juger, à venger notre sang en le faisant payer aux habitants de la terre? Pas de l'Ancien Testament, ça. Je ne sais pas si on peut appeler ça imprécation, mais ce qui est sûr, c'est que c'est agréé par Dieu et exprime effectivement, comme dans le psaume, la finalité, le sort final du mal et des méchants. Comme dit encore un verset, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu préférerait faire grâce. Il ne veut pas la mort du méchant, mais sa justice, sa vengeance, dans le bon sens du terme, s'appliquera à tous les méchants. L'imprécation biblique exprime cela. Tous les gens non convertis que je connais sont des méchants qui commettent le mal. Tous les méchants, tous les gens non convertis que je connais sont des méchants qui commettent le mal, appelés à périr. Terrible à dire, hein ? Sentons bien l'urgence et la gravité de la situation. Urgence et gravité de la situation. Mais en disant ça, moi-même, je ne suis pas un gentil. Nous ne sommes pas des gentils. Je suis un méchant, repenti et gracié, puis transformé petit à petit. Seigneur, que je n'oublie jamais cela afin d'éviter tout orgueil par amnésie en me plaçant au-dessus des autres ou à l'écart des autres par mérite personnel. Dieu fait grâce. Dieu préfère faire grâce, et c'est pour cela qu'il nous faut mettre en avant aussi, mettre en avant donc en premier, je pense, l'aspect positif de la grâce. Hein, c'est pour ça, je l'ai souligné la semaine dernière aussi, que l'Évangile, c'est bonne nouvelle avant tout, même si une mauvaise nouvelle aussi de condamnation est accrochée à ce mot. Je crois que c'est effectivement pour nous ce que Dieu nous appelle en premier quand même, d'intercéder pour nos prochains, tous les méchants, en nous souvenant d'où nous venons et où nous allions, nous aussi. C'est certainement là notre vocation à tous, notre ministère à tous, l'intention divine première et majeure, celle avant toute autre chose de la proclamation de la grâce en Jésus-Christ, à tous. Et si ce n'était pas l'objectif de Jésus, si ce n'était pas l'objectif de Dieu, Dieu le Fils ne se serait pas embêté à venir s'incarner et à faire ce qu'il a fait pour nous. Si ce n'était pas l'objectif de Dieu, il ne se serait pas embêté à venir sur cette terre pour nous sauver. La grâce divine, parfaite en Christ, est cependant aussi couperée pour celles et ceux qui la rejettent. En particulier, cela est souligné davantage depuis la croix. Elle souligne davantage la gravité du péché. Comme le psalmiste, il est bibliquement juste de languir après la mise en œuvre de la justice divine, et même légitime de le dire. Mais en même temps, intercédons, témoignons, partageons, proclamons, avec l'amour et l'aide du Seigneur pour qu'il sauve le méchant. Dans ta justice, retire-moi de la détresse, dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis, fais disparaître tous mes adversaires. Une autre traduction du verset 11 et 12 de notre psaume 143. Par la voix du psalmiste, la justice divine elle-même formule ses arrêts, prononce ses sentences, jusqu'à ce que la condamnation du mal soit complète et définitive et effective. On s'attendrait peut-être à un ordre inverse, sauve dans ta bonté et détruis dans ta justice. Mais parce que l'Éternel est juste envers lui-même, il sauve celui qui est son serviteur. Et parce qu'il aime ce dernier, il détruit ses ennemis. Voilà ce que voulait dire David dans ce psaume. Au départ, je ne voulais pas parler de ça quand j'ai ouvert ce psaume, mais ça me semblait utile peut-être de réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'on fait de ce genre de verset ? Qu'est-ce qu'on fait de ce genre de verset dans nos Bibles ? N'arrachez pas les pages. Mais effectivement, considérons cette fin terrible qui attend tous les méchants. Et intercédons pour eux. Ceci étant, il a l'air plutôt à bout, le psalmiste, non ? Abattu, désemparé, poursuivi par l'ennemi, un ennemi dans la traduction que j'ai lue. Les avis divergent selon les commentateurs pour savoir si David est réellement l'auteur de ces psaumes, de ce psaume. Je rappelle que dans la culture hébraïque, c'est courant de dire ou d'écrire de quelqu'un, comme ici de David, non pas par usurpation d'identité et mensonge, mais plutôt par hommage et référence à quelqu'un en se plaçant dans la lignée de sa pensée ou de son héritage. Pour ceux qui pensent que ce n'était pas David, l'argument principal est que l'on retrouve dans ce psaume des versets que l'on retrouve de façon assez similaire dans d'autres psaumes et même dans les Lamentations, ce qui ferait de ce psaume un écrit plus tardif, mais rien n'empêche que ce soit l'inverse. Pour ceux qui penchent pour David, une forte continuité a vu avec le psaume précédent, qui mentionne spécifiquement le temps où David était dans la caverne. Pour moi, ça fait sens, donc je vais considérer que c'est David, mais pardonnez-moi si je me trompe. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas le contexte, je rappelle que le roi Saül, prédécesseur de David, l'a fait poursuivre et même l'a personnellement poursuivi pendant plusieurs années pour essayer de tuer ce jeune rival. Et David a donc souvent et longtemps dû fuir, se cacher dans les déserts ou dans les grottes de Judée. Et c'est d'ailleurs ainsi probablement de Saül que David parle en évoquant cet ennemi qui le poursuit, au verset 3, qui l'oblige à demeurer dans les ténèbres, ou plus précisément dans l'obscurité des grottes où il doit se cacher, plutôt qu'être libre et en pleine lumière. Des années à fuir, jamais tranquille. Il y a de quoi vouloir faire périr ses ennemis. Je reviens sur ce point une toute dernière fois. Mais non, si vous connaissez l'histoire, vous noterez que combien même David souhaitait peut-être la disparition de son persécuteur Saül, souhaitait en tout cas que justice soit faite et que le mal s'arrête, que le méchant ne soit plus, il n'a jamais porté la main sur Saül, alors même qu'à plusieurs reprises, il aurait effectivement pu tuer Saül, de ses propres mains. Mais David respectait trop Dieu pour cela. David respectait trop Saül pour cela. Il avait bien compris que la mise en œuvre de la justice finale de Dieu, comme on vient de l'évoquer, n'était pas de sa responsabilité à lui, David, mais que c'était celle de Dieu seul. Celle de Dieu seul. Ne vous faites pas justice vous-même, bien-aimé, mais laissez place à la colère, car il est écrit, c'est moi qui fais justice. C'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Pas facile, mais laissons cela entre les mains du Seigneur. Ouais, mais bon, quand même, quoi. Des années à fuir, jamais tranquille. Il n'en peut plus, David. Au point peut-être de se considérer de façon métaphorique comme déjà enterré par l'ennemi. Certains comprennent le passage ainsi. Et comme c'est de façon injuste, en plus, il y a vraiment de quoi se plaindre. Il a bien raison de le faire. Non, David ne se plaint pas, justement. Ça peut nous paraître étonnant. C'est vrai que nous, en pareille situation, on peut se sentir pas à la hauteur. Lui ne se plaint pas, mais il expose néanmoins sa situation à Dieu et reconnaît humblement où il en est. Accablé par une épreuve depuis de longues années, poursuivi par les difficultés, usé par une tension prolongée, peut-être est-ce notre cas aussi pour d'autres circonstances. Il ne se plaint pas, mais il en appelle à Dieu, bien sûr, et instamment, avec insistance. Il semble d'ailleurs ne pas plus avoir d'autres ressources que Dieu. Et je ne dis pas du tout qu'il a attendu d'être à cette extrémité avant d'appeler au secours, mais toujours est-il que malgré peut-être les appels au secours répétés qu'il a pu faire, il en est à cette extrémité. Cela vous est-il déjà arrivé ? Sa résistance semble à bout, alors qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il fait ? Plusieurs choses qui m'interpellent dans sa prière, et j'en soulignerai que deux. D'abord, première chose, il met Dieu face à ses responsabilités. Il met Dieu face à ses responsabilités. Ça, c'est un des aspects qui m'interpelle toujours le plus quand je lis les prières dans l'Ancien Testament. celle d'Abraham, celle de Moïse, celle de David. Et ça m'émerveille toujours. Quelle audace ils ont dans la façon d'interpeller Dieu. Quel culot! Et Dieu ne leur reproche pas. Dieu ne les envoie pas balader. Ils ont une telle intimité avec Dieu qu'ils osent dire des choses que moi j'ai encore du mal à m'approprier. C'est un peu dans le désordre ce que je souligne, mais verset 11. « Puisque tu es ce que tu es, ô Éternel !» Les traductions plus littérales disent « à cause de ton nom !»« Puisque tu es ce que tu es !» Ça veut dire « Dieu, parce que tu es Dieu de vie, tu es obligé de me faire vivre !» Sinon, tu te contredirais toi-même. Dieu, parce que tu es amour, tu es obligé d'agir avec amour à mon égard. Dieu, parce que tu es juste, tu dois me sauver, moi, ton serviteur. Sinon, c'est comme si tu te reniais toi-même. Sinon, tu n'es pas qui tu prétends être. Sinon, tu n'es pas le Dieu que je connais tel qu'il se fait connaître. Sinon, tes ennemis vont se moquer de toi. Moi, je vois tout ce genre d'interpellation dans ces mots de David. « Puisque tu es ce que tu es. » Waouh ! Quelle audace, hein ? Ou plutôt, quelle belle connaissance intime de Dieu pour se permettre d'exprimer ces paroles un peu folles. Vous osez prier ça, vous ? Non, c'est pas assez souvent, je pense. Je ne vais pas m'étendre sur ce point, mais pourtant, quand Jésus nous invite à prier en son nom, au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Je pense que l'on est totalement dans la même logique. Dans la même logique. Jésus, puisque tu es sauveur, Seigneur, défenseur, je te prie pour ceci ou cela. Jésus, puisque tu es ce que tu es, Sauveur, Seigneur, Défenseur, je te prie pour un tel ou une telle. Vous ne croyez pas que c'est ça que ça veut dire ? C'est pas que ça, mais sûrement ça aussi. Si nous pouvons vraiment actualiser la prière de David, pour nous chrétiens, nous pouvons le faire en considérant cela. Seigneur, parce que tu es ce que tu es, puisque tu es ce que tu es. Et on peut continuer nos prières ainsi. Ô Dieu, puisque tu es ce que tu es. Est-ce que l'on ne connaît pas assez intimement Dieu pour prier comme David ? Avec toute l'humilité qui vous caractérise, vous me direz comme souvent, « Mais non, moi, je suis trop pécheur, je ne suis pas assez digne. Je ne suis pas comme ces grands serviteurs de l'Éternel. » Bon, Abraham a été plusieurs fois menteur. Il n'a pas attendu Dieu et a humainement agi pour forcer la promesse divine à son égard, alors qu'il ne la voyait pas s'accomplir. Moïse a également manqué de confiance par moments, de maîtrise de soi aussi souvent. Quant à David, adultère, meurtre, nous on n'y est pas encore, enfin j'espère. Mais ils ont quand même été en effet de grands serviteurs de l'Éternel. Nous le savons, la comparaison n'a jamais été un critère divin. Et donc personne n'est mieux ni moins bien qu'un autre, ça ne marche pas comme ça. Et de toute façon, ce n'est pas sur une base de dignité personnelle, ou d'absence, ou de moindre péché qu'ils vont devant Dieu et qu'ils l'interpellent avec hardiesse. Ce n'est que sur une base de connaissance de la grâce divine. Ce n'est que sur une base de connaissance de la grâce divine. Voyez le verset 2 de notre psaume. « N'entre pas en procès avec ton serviteur, aucun vivant n'est juste devant toi. » David ne se fait aucune illusion quant à lui-même, aucune. N'entre pas en jugement avec moi, ton serviteur, car aucun vivant ne peut être juste devant toi. Une vérité parallèle est exprimée dans Romains. Personne, en effet, ne sera justifié devant lui en vertu des œuvres de la loi. Car ce qui advient au moyen de la loi, c'est la connaissance du péché. David ne se fait aucune illusion quant à lui-même. Aucune. Mais David, il n'en peut plus. Il est à bout. Et Dieu insiste en rappelant cette vérité de notre injustice et de notre péché devant lui. C'est pas un peu trop, là ? Dieu n'exagère-t-il pas en appuyant encore là-dessus. Comme si Dieu enfonçait le clou, comme dit une expression. Peut-être que Dieu enfonce le clou pour faire voler en éclats toute illusion. Toute illusion, y compris l'illusion que Dieu doit avoir pitié de nous, parce que nous faisons vraiment pitié, justement. Comme si Dieu devait alors se pencher vers nous par obligation, obligation de miséricorde et de compassion, par obligation, par référence à nos épreuves qui sont si terribles. C'est un peu dur ce que je dis, mais pas du tout. Nos situations, aussi misérables soient-elles, ne méritent pas son regard ou son attention. La seule référence est qui il est lui. La seule référence est qui il est lui. Pas la gravité de nos situations. Pas le fait que nous méritions un peu son attention du fait des souffrances profondes que nous traversons. J'espère que je ne choque pas en disant ça, hein. Mais que cela nous aide peut-être à mettre un peu les choses en perspective. Déjà alors, par David et par d'autres, le salut était compris comme dépendant totalement de Dieu seul, de la grâce de Dieu seul. Ainsi, j'insiste, l'audace de David, son assurance, n'est que sur la base de qui est Dieu, pas de qui il est lui ou de ce qu'il vit lui. Notre capacité à venir devant Dieu, notre assurance à venir devant Dieu, à le prier, l'interpeller, n'est et ne peut être, ne pourra être que sur la base de qui est Dieu. Rien d'autre. Rien d'autre. Sur la base de qui Dieu est, fidèle et juste, selon les arguments du verset 1. Et alors, nous avons effectivement un accès particulier à lui, exceptionnel, accès VIP même. Cela n'est que sur la base de qui il est lui. Et en conséquence, de qui nous sommes en lui, en Jésus-Christ, pour nous chrétiens, à savoir que par grâce, pure et unique grâce, nous sommes ses enfants. Et ainsi, bien heureusement, si Dieu enfonce le clou, il ne nous enfonce pas la tête, sous l'eau ou dans la mouise, parce qu'il nous aime, parce qu'il est ce qu'il est. Et même mieux, et plus loin, loin de nous enfoncer la tête, c'est la deuxième chose qui m'interpelle, et je conclurai par cela. Ce psaume fait ressortir une vérité qui peut paraître un peu anachronique, mais qui en dit long déjà sur la compréhension du psalmiste, déjà à l'époque, concernant la présence de Dieu avec lui dans son quotidien, combien même très difficile. C'est cette mention au verset 11, « du bon esprit de Dieu ». Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Dans la traduction Semeur que j'ai lue. Que ton bon esprit me conduise, dit second 21. On est 1000 ans avant Pentecôte. Même si ce n'est pas David qui a écrit, on est en tout cas de nombreux siècles avant Pentecôte. Et le psalmiste a déjà de façon très éclairée compris l'importance, compris la nécessité et la beauté d'être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est extraordinaire, ça. Et sauf erreur de ma part, dans les psaumes, la mention de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, ne se trouve qu'au psaume 51, celui qui est écrit justement après cette terrible situation de péché de David. Un temps où, ayant reconnu sa faute, il ne fait pas le malin. Il reconnaît aussi tellement son besoin que l'Esprit de Saint reste sur lui. Au psaume 139, où David exprime qu'il serait désespéré d'aller loin de l'Esprit de Dieu. Et ici, dans notre psaume 143, dans l'abattement d'avoir péché, dans les temps où l'on est déboussolé, dans les temps d'épreuve, le Saint-Esprit, ô combien précieux et nécessaire. En tous les autres moments, si, bien sûr. Mais en particulier, là où échoue tout le reste, l'esprit de prière s'épanouit. Plus on est au creux de la vague, voire au fond du trou, plus il faut rechercher refuge en Dieu et plus la présence de Dieu par son esprit est à la fois sensible et précieuse. Alors je ne dis surtout pas qu'il faut rechercher les difficultés, les épreuves, et encore moins pécher puis se repentir pour expérimenter cela. Mais Dieu, dans sa grâce, permet aussi alors l'expérience de sa présence, sa présence divine d'une façon toute particulière. Même s'il est prouvé en particulier, il n'en a peut-être pas toujours conscience à l'instant même. C'est un peu complexe. Ô Seigneur, développe davantage notre perception de ta présence, en particulier dans l'épreuve, en particulier dans la souffrance. Développe davantage notre conscience de notre besoin de ta présence, notre dépendance de toi. Ô combien ton soutien et ta présence en plénitude nous sont indispensables. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Bien sûr, en lien avec ce qu'on a pu voir dans le Notre Père, par lequel on a légitimement le droit de demander d'être épargné de l'épreuve, tout en voulant premièrement l'accomplissement de la volonté de Dieu et non la nôtre. Cette attente d'un sol aplani est certainement au premier degré celle d'un chemin débarrassé de ses obstacles. Mais plus profondément, peut-être, ces termes reconnaissent aussi notre tendance naturelle, non seulement à nous égarer, mais aussi à trébucher, à tomber. Et la prière est sans doute aussi demande de préservation de toute chute, justement, en étant conduit, enseigné, aidé à faire la volonté divine. David attend des directives de Dieu, non seulement concernant sa destinée personnelle, mais surtout concernant les priorités de Dieu. Celles-ci définissant en particulier le but de l'existence et le chemin par où passer. L'Esprit Saint permet ainsi de ne pas premièrement rechercher son épanouissement personnel. On ne trouve pas ça dans cette prière, contrairement à tout ce que on trouve souvent dans les conceptions actuelles et fréquentes de la spiritualité. Mais l'Esprit Saint permet de pleinement chercher, vouloir et effectivement plaire concrètement à Dieu et accomplir son œuvre. Mais évidemment, pour David comme pour nous, et nous avons l'immense privilège par rapport à lui d'avoir le Saint-Esprit en demeure permanente et assuré en nous. Ça, c'est un des changements majeurs depuis Pentecôte, quand même. Nous avons jour après jour, instant après instant, besoin que Dieu nous montre la bonne voie et nous accorde son aide pastorale pour pouvoir le suivre, la suivre, cette voie. Ça tombe bien. C'est ce qu'il veut faire pour nous, par son Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je vous invite à quelques instants de réflexion avant de prier, justement.